Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative, Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Hugo et bien évidemment, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un monastère à la recherche de livres rares et anciens. Non, nous n'allons pas dans le nord de l'Italie, mais plutôt en Haute-Savoie, car nous n'allons pas parler du Nom de la Rose d'Umberto Eco, mais d'un premier roman, celui de l'écrivain amiénois Gonzague Pilon, le Radiateur. Michel et José sont deux grands amis. Le premier est plaqué par sa petite amie et il se trouve être un relieur au chômage et croule sous les dettes. Le second deal du cannabis pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est particulièrement préoccupé par le parcours de sa petite sœur qu'il aimerait voir réussir dans ses études. Alors qu'il l'accompagne dans ce cadre dans des monastères en Haute-Savoie, il découvre de vieux livres laissés à l'abandon dans des placards. Pensant qu'ils peuvent valoir une fortune, José propose à Michel d'aller les sauver de l'oubli afin de les restaurer et de les revendre. Et voilà les deux compères qui partent sur les routes au volant d'un vieux Renault Trafic. L'aventure ne sera pas de tout repos et les deux amis vont ainsi se découvrir une autre facette d'eux-mêmes. Le radiateur réchauffe les cœurs de ceux que la société, bien comme il faut, laisse sur le bas-côté, des marginalisés, de ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Gonzague Pilon signe un roman à la fois drôle et tendre, léger et dramatique sur l'amitié, la solidarité, l'envie d'évasion que procurent les voyages, mais aussi les livres. Aujourd'hui, a-t-on oublié le pouvoir des livres, du savoir qu'ils contiennent et leur richesse? C'est ce que semble suggérer Gonzague Pilon. Son personnage, qui restaure de vieux livres, est comme un alter ego de l'auteur qui suit un chemin similaire par une activité de bouquiniste et d'écrivain. Gonzague Pilon mélange langage parlé et style plus littéraire, écrit avec humour, le livre étant parsemé de formules de dialogue qui font mouche. Si certains passages sont traités avec une certaine dérision, d'autres s'avèrent plus réalistes quand il s'agit de décrire une société violente, qu'elle soit sur les plans administratifs, social ou physique. Pourtant, le Radiateur se révèle un livre humaniste et évite d'être cliché et manichéen quand il s'agit de poser des personnages. À partir d'un ou deux détails, Gonzague Pilon réussit à donner toute sa dimension humaine à un personnage, lui évitant alors de tomber dans les lieux communs. Cela n'empêche pas le Radiateur de proposer des passages plus durs que d'autres, de dépeindre des personnages impitoyables dans des situations particulièrement rudes. Cependant, Gonzague Pilon ne dévie jamais de la route qu'il s'est tracée, garde le même style, s'adapter le ton du roman, un roman qui se lit avec plaisir, dont on lâche la lecture avec difficulté. Avant de se lancer dans l'écriture, Gonzague Pilon était porté sur la musique. Il passe par la fac de sociaux avant de se découvrir une passion pour la randonnée. Et c'est dans le Massif Central qu'il s'achète un vieux Renault Trafic de 1984 qui devient son compagnon de route et qui lui permet aussi de se livrer au métier de bouquiniste. Ainsi, le fourgon devient l'un des personnages principaux de son premier roman. Et pour parler de ce roman intitulé Le Radiateur et publié aux éditions J.C. Lattès, qui mieux que Gonzague Pilon qui se trouve avec nous dans les studios de Radio Campus Amiens. Gonzague Pilon, bonjour.
Bonjour Thomas, merci de me recevoir.
Bah de rien, c'est tout naturel. Quand on lit un premier roman aussi réussi que Le Radiateur, on a envie d'en parler, de le partager, de donner aux gens de l'acheter, de le lire. Et donc Gonzague Pilon, au départ, vous étiez plutôt porté sur la musique. Comment passe-t-on de la musique au livre ?
Par un drame personnel qui s'appelle Les Acouphènes. Je faisais du death metal, ce qui n'est pas le style musical qui est le plus reposant pour les oreilles. On a écumé les bars et les salles de concert en France pendant une dizaine d'années. Et puis un beau matin, je me suis réveillé, j'avais un gros sifflement au niveau de l'oreille gauche. Et puis le verdict de l'ORL est tombé. Il m'a dit que la musique dans les garages et la musique de manière générale, c'était fini. Donc... Auparavant, j'écrivais les textes du groupe, c'était Witness, du groupe dans lequel je jouais. Et puis, je suis passé... J'avais besoin d'un exutoire, et l'écriture est un excellent exutoire quand on a des trucs à dire et qu'on ne peut plus les crier dans un micro, pour le coup.
Alors, passer du death metal à la lecture, quand même, c'est quand même un grand écart.
Alors, j'ai toujours été un gros lecteur, pour le coup. Et j'écrivais déjà, à l'époque, quelques nouvelles, mais c'était quand j'avais le temps et quand j'en avais vraiment l'envie. Autrement dit, assez rarement. Et une fois que j'ai libéré les 6 heures par semaine de death metal, j'avais du temps libre. Et donc là, j'ai pu m'y consacrer pleinement, pour le coup.
Gonzague Pilon, comment vous est venue l'idée de ce vol de livres dans un monastère ?
L'idée principale, elle m'est venue d'un fait divers qui a eu lieu dans les années, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2010, à l'abbaye du Mont-Saint-Odile, où il y avait déjà eu des vols de manuscrits. C'était un collectionneur qui voyait effectivement, qui était peiné de voir les manuscrits de l'abbaye ou du monastère, je ne sais plus bien ce qu'il y a là-haut, se déliter, et qui a décidé de les sauver, et qui les a accumulés dans une salle de l'abbaye et qui les récupérait le week-end. Et ils ont fini par s'en apercevoir après une centaine de livres volés quand même. Et voilà, donc quand moi je suis allé randonner dans le Mont-Saint-Odile, j'ai appris cette histoire et ça a allumé une petite étincelle. En parallèle, j'avais déjà des personnages qui dormaient dans un tiroir depuis 2017. Et puis à peu près au même moment, alors j'ai plus la chronologie exacte, mais c'est le moment où j'ai décidé de devenir bouquiniste, où je me suis acheté un camion. Donc au final j'ai mélangé un petit peu tout ça et ça m'a donné le radiateur pour le coup.
Alors ce fait divers, cet achat de camion et ces personnages qui traînaient dans un tiroir, quand on lit le radiateur on a quand même l'impression d'une large part autobiographique. Qu'en est-il réellement?
Alors c'est pas de l'autofiction. Pour le coup je suis pas un gros fan de l'autofiction et voilà, j'ai pas. Justement, dès que je sentais que j'étais trop présent dans les lignes, je faisais CTRL A, SUPRE, j'effaçais. Je voulais vraiment laisser la part belle au personnage et à la narration. Cela étant dit, quand on écrit quelque chose, on peut pas faire complètement abstraction de soi. Et donc, il y a un petit peu de moi, et on parle aussi mieux de ce qu'on connaît. Donc, il y a un petit peu de moi forcément dans le trafic, dans Michel aussi. Je suis un petit peu hypochondriaque. Je suis assez angoissé, il y a aussi un petit peu de moi dans José, c'est un petit peu mes années métal, hein. C'est là où j'exprimais le plus ma violence, c'est un petit peu la violence de José qui transparaît, donc forcément il y a toujours un petit peu de l'auteur qui transpire on va dire dans les personnages, mais globalement c'est ça, ça reste quand même une fiction avec voilà, une fiction construite de manière assez classique pour le coup.
Quand on lit le radiateur il y a aussi ce sentiment de réalisme, hein. On sait que de quoi vous parlez, donc le quartier du Pigeonnier, tout ça, c'est que ça fait partie de votre vie antérieure, de vie métalleux.
Exactement, on répétait à l'époque avec Witness à Cité Carter, juste à côté d'ici. Donc, d'ailleurs, je salue tout le monde de Cité Carter s'ils nous écoutent. C'est que des bons souvenirs. Donc, on répétait dans une salle à côté de d'autres groupes qui faisaient parfois du punk, très souvent du rap. Et donc, on échangeait beaucoup avec eux. Et ce qui fait que, voilà, on a fait quelques soirées-concerts et autres au cœur du Pigeonnier. Et puis, je suis né à Amiens. Donc, ce sont des quartiers que je connais bien par nature, pour le coup.
Le Radiateur est un roman qui comporte son lot de mots et d'expressions imagées avec un langage moderne, ce qui peut paraître plutôt incongru pour un livre sur la mémoire, les livres anciens. Comment cela vous a-t-il paru évident d'adopter ce style et pourquoi ?
Alors, comme je disais juste avant, j'ai voulu laisser la part belle au personnage. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question avant de l'écrire de comment j'allais l'écrire. J'avais un personnage qui était un lascar, le José, qui fréquente tous les milieux parce qu'il est dealer. Et il fréquente les punks, il fréquente énormément la classe moyenne qui fume beaucoup. Il fréquente également tout le quartier nord. Donc, il a un bagage culturel assez important. Et en termes de jactance, ça se ressent beaucoup. Et je ne me suis pas posé la question de savoir comment j'allais le faire parler, puisque en fait, pour moi, il s'exprimait tout seul. Quand j'incarnais José, je me mettais derrière le clavier, j'incarnais José, je faisais les paroles, et en fait, ça coulait quasiment tout seul, pour le coup. Quant à Michel, c'est quelqu'un de beaucoup plus... voilà, sans être un littéraire, c'est quelqu'un... Enfin, si, c'est un littéraire, pour le coup, c'est un ancien relieur. Mais voilà, c'est quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, normal, même si j'aime pas le mot, qui s'exprime plutôt normalement, qui est un peu le pendant de José, qui essaye parfois de le traduire, parfois de le ramener dans le droit chemin, voilà.
Justement, est-ce qu'on peut voir dans le radiateur une vision sur l'évolution de la langue française ou quelque chose comme ça, en parallèle avec ses livres anciens, ce vieux français qui fait partie de ses livres anciens?
On peut, après, il y a toujours eu, je pense, hein, je suis pas historien, mais il y a toujours eu la langue des livres et l'usage qui ont vécu en parallèle. La langue des livres était censée être parlée par l'élite et réservée à l'élite, et le petit peuple parlait justement la gouaille, un langage plus pratique, plus à l'épreuve du terrain. Donc je pense que c'est pas vraiment une évolution. Je pense que ça, ce schisme entre guillemets entre entre le langage, comment on dit, vernaculaire, et le langage écrit, le langage aristocratique a toujours existé, je pense. Et je le reprends un petit peu, mais c'était pas mon optique en fait. C'est là en parlant que je m'en rends compte, mais c'était pas vraiment un travail sur le langage. C'est vraiment, là encore, c'est venu naturellement pour le coup.
Je suis en compagnie de Gonzague Pilon, auteur du Radiateur, roman publié aux éditions J.C. Lattès. Quand on lit le Radiateur, par rapport au sujet et au style, on a envie de se dire que c'est un mélange entre Umberto Eco et Jean-Patrick Manchette. En tant que bouquiniste et grand lecteur, quelles sont vos influences ?
J'en ai beaucoup. En littérature française... Celui qui m'a vraiment, enfin, qui se sent plus, l'influence qui se sent le plus dans le Radiateur, ça va être Laurent Chalumeau, qui avait écrit notamment il y a quelques années Kiff, c'est une trilogie, hein, il y a Bonus, Kiff et encore un autre que j'ai oublié, qui est justement une ode au langage parlé au dialecte de la rue, et qui a fait sauter un cadenas chez moi, qui m'a montré en fait qu'on pouvait parler, ramener ce langage de la rue dans les bouquins. Donc ça, c'est une première influence qui est très importante dans l'écriture du Radiateur. Ensuite, j'aime beaucoup Michel Houellebecq pour les satires sociales, ce qui dépanne notre société et sa façon de le faire, qui est, je trouve, très drôle pour le coup. Je pense que c'est un de nos meilleurs écrivains contemporains. Il y a aussi Ferrari qui avait écrit sur la Corse il y a quelques années. C'était quoi ? C'était le sermon sur la chute de Rome que j'aime beaucoup. Là, qui pour le coup est dans une langue absolument magnifique, qui parle de choses banales dans une langue magnifique. C'est un petit peu le chemin inverse. Et ensuite, en littérature plus internationale, en littérature américaine, j'étais un fan de Stephen King quand j'étais plus jeune. Et puis, j'aime beaucoup aussi un écrivain américain qui est sorti de l'ombre à 60 ans en 2015, si je ne dis pas de bêtises, c'est Donald Ray Pollock, qui a écrit Le Diable tout le temps, qui est une satire sur la société américaine absolument fantastique pour le coup.
On peut lire aussi dans Le Radiateur, en fait, c'est une déclaration d'amour aux marginaux. Hein, vous en parliez dans vos réponses précédentes, hein, ça transparaît dans vos réponses précédentes. En quoi cela était-il important d'en parler ?
De parler des marginaux, enfin, c'est... Comment dire ? J'ai l'impression que tout ce qui est média mainstream, et même dans... Enfin voilà, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises moyennes, grandes ou moyennes entreprises, et il y a effectivement, il n'y en a que pour les médias, et ce que l'on va... dire dans les médias. Et en fait, tout ce que l'on va dire dans les médias va être répété par les gens qui les écoutent. Donc, j'ai envie de dire les 51% qui votent Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. On ne parle jamais de justement ces personnes qui ne vont pas voter, de ces personnes qui sont un petit peu sur le côté et qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce qu'ils entendent tous les jours à la télévision, à la radio, qui ne se reconnaissent pas dans les députés, dans les personnes qui sont censées nous gouverner. Et pourtant, ils sont une part importante de notre société. Je ne suis pas le seul, hein, et ce n'était pas non plus un roman politique, mais je ne suis pas le seul à leur donner la parole. Mais voilà, pour moi, ce sont des gens qui sont, à titre personnel, ce sont les gens... avec lesquels je préfère échanger. J'ai beaucoup été, à l'époque où je faisais la musique, comme je le disais, j'ai beaucoup fréquenté les milieux punk, ce qui m'a amené à fréquenter pas mal la rue aussi, et ça reste d'excellents souvenirs. Et ce sont des gens qui ont souvent voilà, une philosophie, une construction de la pensée qui relève d'autre chose que ce qu'on entend tous les jours à la télévision. Il y a une vraie pensée et pas simplement des faits qui sont répétés de ce qu'ils ont entendu à la télé la veille au soir, pour le coup.
Est-ce qu'on peut dire aussi que le radiateur, par rapport à certains personnages qui apparaissent dans l'intrigue du roman, au fur et à mesure que les personnages avancent dans leur aventure, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman aussi sur la solitude ?
Absolument. Michel, en fait, quand il commence, il est vraiment au bout du rouleau. C'est quelqu'un qui a tout perdu, qui avait un métier qu'il aime et qui n'arrivait plus à en vivre, qui pour rentrer dans le système, pouvoir payer son loyer, pouvoir partir en vacances avec sa femme, décide donc de troquer ce métier de cœur pour un métier qui va faire rentrer de l'argent. Il travaille sur une plateforme de relations clients. Et puis du jour où sa femme le quitte, il n'a plus de moteur pour continuer à supporter ces chaînes-là qui ne lui conviennent pas. Il se laisse complètement dépérir, et il se laisse complètement oublier. Il perd presque son identité. Hein, parce que aujourd'hui, ce qui nous définit beaucoup, c'est l'emploi. C'est une des premières choses qu'on demande quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. On est plus sur une société du faire que sur une société de l'être. Et pareil, encore plus sur une société du paraître que de l'être. Et quand on n'est plus grand-chose comme Michel, quand on a vraiment tout perdu, effectivement, on est terriblement seul. Et le seul rang, enfin, ce qui sauve vraiment Michel de la solitude, c'est José. C'est lui qui va lui tendre la main, c'est lui qui va être le moteur pour essayer de le faire remonter à cheval. Et plus encore qu'un roman sur la solitude, c'est vraiment un roman sur l'amitié, sur cette possibilité qu'offre l'amitié de se sortir de n'importe quelle impasse, pour le coup. José, lui, est beaucoup moins seul dans sa vie, encore que... Enfin, voilà, il est entouré par sa famille, mais qui ne sait pas tout sur lui. Il a vraiment une vie parallèle. C'est moins un solitaire, parce qu'il voit beaucoup de monde, mais c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est entouré, mais c'est quelqu'un qui a la débrouille dans le sang et qui sait se débrouiller, même s'il n'y a personne autour de lui. Tout seul, il sera toujours débrouillé, c'est son moteur.
Ah oui, c'est un roman sur l'amitié, sur la solidarité aussi, à travers un personnage important qui apparaît au cours du roman. Et donc, on parlait des marginaux, des laissés pour compte. Est-ce que le rôle de l'art, justement, le cinéma, la musique, la littérature, n'est-ce pas de pouvoir donner une voix à ces gens qui sont oubliés par la société ?
Absolument. C'est le rôle de la littérature depuis... j'allais dire depuis toujours, mais c'est en tout cas oui, une de ses fonctions, c'est de pouvoir tendre le micro vers ceux qu'on n'écoute jamais. Après, là encore, c'est pas si évident que ça. J'ai l'impression que de plus en plus, en tout cas, tout est cadenassé. Même au niveau de l'art, il n'y a plus une... Enfin voilà, c'est... Quelqu'un de la rue va avoir beaucoup de mal à sortir de l'anonymat, puisqu'on a l'impression qu'il y a une certaine, je dirais, caste, sans être complotiste ou autre, bien sûr, mais une certaine caste qui décide de ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Et il va falloir cocher certaines cases bien particulières pour pouvoir prétendre être un artiste. Je pense que c'est un peu plus... Enfin, je vais prendre mon exemple tout simple, hein, c'est un peu plus simple dans la littérature. Enfin, moi, je ne connaissais absolument personne dans le milieu de l'édition. Je pense que... Encore aujourd'hui, il est possible d'envoyer un manuscrit à une maison d'édition sans vraiment connaître absolument quiconque et d'attirer l'attention, d'éveiller la curiosité et de pouvoir s'exprimer encore dans les grandes maisons d'édition. Et dans la littérature, là encore, sans même passer par les grandes maisons d'édition, aujourd'hui, il y a les plateformes, je pense à Amazon, mais il y en a beaucoup d'autres d'auto-édition qui permettent aussi de s'exprimer et de proposer ce qu'on a à dire à beaucoup de lecteurs. Je me rappelle, je crois que c'était quelqu'un qui vend beaucoup, Aurélie Valogne, qui vend énormément de livres, qui a commencé dans l'auto-édition. Donc il y a plus de possibilités pour moi dans la littérature, je pense, que dans l'art. Mais là encore, Ma connaissance de l'art se limite au death metal que j'ai pratiqué pendant des années. Et le death metal, pour percer, c'est vraiment très, très compliqué pour le coup.
Alors, on parlait de l'édition, là, de comment se faire éditer. Justement, votre livre, le ton qu'il adopte, le sujet, le style, est-ce que ça a été compliqué de trouver un éditeur ?
Alors, ça a été compliqué parce que j'ai écrit d'autres livres avant qui n'ont pas trouvé leur... Voilà, je les ai envoyés des maisons d'édition et ça m'a été refusé. Celui-ci, ça n'a pas été si compliqué que ça puisque, assez bizarrement, j'y croyais plus trop. Et je l'ai envoyé qu'à deux maisons d'édition, donc Lattès et un autre éditeur. Et Lattès m'a rappelé, j'ai dû envoyer mon manuscrit en mars et Lattès m'a rappelé en juin. Donc là, pour celui-ci, en tout cas, non, ça a été très rapide.
Gonzague Pilon, merci.
Merci de m'avoir reçu.
Bah, de rien. Et je rappelle que Le Radiateur est un roman de Gonzague Pilon, qui est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies amiénoises, en particulier la librairie du Labyrinthe, que vous connaissez bien.
Merci Thomas, merci Guillaume. Je vous propose maintenant de continuer notre série consacrée au sport avec le deuxième épisode de la capsule Paris des Jeux Écolos, réalisé par Cerise.
Ça y est, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont officiellement commencé. Vous avez vu la flamme rejoindre la Seine depuis le canal Saint-Martin pour briller de ses étincelles la capitale française. Avant son ascension lors de la cérémonie d'ouverture, vous n'aviez pas encore réalisé à quel point cet événement rassemble. Et pourtant, il faut bien reprendre l'histoire là où nous nous sommes arrêtés.
Camille Lacour.
C'est le dernier feu d'artifice pour l'équipe de France. Attention, record d'Europe peut-être à l'arrivée. La victoire.
Paris, des Jeux écolos. Épisode 2, le village des athlètes.
En garde. Prêt. Allez.
Après être rentré chez vous, autant d'étoiles dans les yeux que de questions dans la tête, vous êtes revenu le lendemain, cette fois-ci au Grand Palais, pour la première épreuve à laquelle vous vouliez assister en premier lieu, l'escrime. Véritable joyau qui trône en plein cœur de Paris, le Grand Palais, édifié en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle, peut accueillir près de 8000 personnes. Sa restauration s'achève juste à temps pour vous laisser entrer en son sein. Son imposante verrière inonde l'espace de la lumière estivale du soleil. Cet astre, qui depuis toujours nous accompagne, vous paraît menaçant aujourd'hui, sans trop comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous pouvez bien craindre de lui pour trembler à ce point ? À une quinzaine de kilomètres de là se trouve le département le plus pauvre de l'Hexagone. C'est pourtant en Seine-Saint-Denis qu'est construit le village des athlètes, comme expliqué dans l'épisode précédent. Le quotidien néerlandais NRC s'interroge sur l'avenir de ces nouveaux logements et infrastructures. Cette rénovation profitera-t-elle aux habitants du 9-3 ou aura-t-elle surtout pour effet d'en chasser les populations les plus pauvres, traduit le courrier international. C'est en Seine-Saint-Denis que se concentre 80% de ce que construit la Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures des JO. Mais il n'y a pas que les problèmes sociaux et la criminalité qui posent problème au sein de ce département. Dans un reportage réalisé sur place en octobre 2023, Reporter résume qu'il aura fallu attendre les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024 pour que les autorités se préoccupent des punaises de lit en Seine-Saint-Denis. Avec ses journalistes, de multiples médias internationaux mêlent les punaises de lit et les Jeux Olympiques, se demandant si la compétition serait en danger. En réponse à ce problème, Clément Beaune, ministre délégué au transport, aurait dit dans l'émission C'est à vous vouloir empêcher que l'événement sportif ne soit gâché par ce genre de mauvaise publicité. Renforçant l'idée selon laquelle cette priorité nationale survient après des années d'indifférence, selon les témoignages recueillis par reporters en fin d'année 2023. Les infrastructures des JO sont soit réutilisées pour l'occasion, soit construites à usage temporaire. D'accord. Et qu'en est-il du village des athlètes, construit sur les communes de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et Lille-Saint-Denis ? On appelle héritage toutes les constructions liées aux futurs Jeux de Paris qui ont été pensées pour l'avenir. France Bleu précise que ce village olympique des athlètes deviendra par la suite un tout nouveau quartier au cœur de la Seine-Saint-Denis. Les anciens logements des sportifs deviendront des logements standards, mais aussi des commerces, des bureaux et même une annexe du ministère de l'Intérieur. À voir ce qu'il en sera une fois ces Jeux achevés. En attendant, vous ne vous en souciez guère. Vous êtes toujours dans le Grand Palais, à admirer les combats aux fleurets, comme transportés dans un monde alternatif. Mais la réalité vous rattrapera bien vite, lorsque vous assisterez au triathlon et à la baignade de tous ces athlètes au beau milieu de la Seine.